7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Au lendemain de cette élection présidentielle, eh bien la France apparaît divisée. Divisée en deux, en trois, en quatre, selon les lunettes que l'on chausse. Des fractures qui ne seraient pas seulement politiques. Alors les Français se définissent-ils aujourd'hui par le lieu où ils vivent, leur niveau d'éducation, l'argent qu'ils gagnent ou leur degré d'optimisme dans la vie? Eh bien au-delà du prochain scrutin législatif qui s'annonce incertain, comment réconcilier finalement les Français et la France? C'est la question que nous allons poser à nos invités. Un démographe et historien, Hervé Lebras, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez « Malaise dans l'identité » et « L'âge des migrations ». Vous avez beaucoup travaillé sur le Front National également. Un éditorialiste économique, Dominique Seux, bonjour.
Bonjour, Emmanuel Bastide.
Vous devisez chaque matin sur France Inter et vous êtes aussi directeur délégué du journal Les Échos. Et vous publiez « La France va s'en sortir », une incantation qui vaut aussi pour le nouveau président ou pas?
Écoutez, pourquoi pas?
C'est la méthode Coué?
C'est pas la méthode Coué. Ce livre a été écrit avant son élection. Et en tout cas, si on ne s'en sort pas au cours du prochain quinquennat, ce sera difficile.
Oui, si vous l'aviez écrit pendant la nuit, là, vous dormiriez encore
Exactement.
Moins que le nouveau président. Une journaliste multiculturelle. Bonjour, Aïssé Gülsert.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes américano-turque, élevée dans la langue française et vous écrivez pour la presse américaine, notamment le New York Times. Et vous seriez presque un pur produit de la mondialisation heureuse, si ce n'était les heures douloureuses de votre pays, la Turquie d'Erdogan. Aujourd'hui, la France donc vient d'élire avec 66% des voix le plus jeune président de la 5e République, inconnu des Français il y a moins de 5 ans, voire moins de 3 ans, l'ascension la plus fulgurante de la vie politique française, et qui m'évoque cette phrase de l'écrivain américain Paul Auster: « Il ne suffit pas de réussir, encore faut-il que les autres échouent. »
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Commençons par un mot de réaction face à cette élection atypique, Hervé Lebras.
Atypique, je trouve, au fond, si on se met au départ, vous aviez tout un ensemble de candidats, François Fillon, Marine Le Pen, etc. Et puis Emmanuel Macron, bon, et puis il se passe tout un chaos finalement, des primaires qui ne donnent pas le résultat attendu.
C'est bien l'échec des autres.
Des révélations et tout. Et qu'est-ce qui sort du chapeau? Moi je trouve objectivement, sans être forcément un de ses partisans, celui qui a le meilleur profil d'une certaine manière. Il est jeune, il est intelligent, il est diplômé, il a travaillé avec un philosophe, Paul Ricoeur, et c'est du sérieux. Il a été banquier, formidable, il saura discuter avec les banquiers. Quelque part, dites-moi qu'un autre candidat avait au départ les mêmes avantages. Et c'est ça qui est sorti de ce
multicarte,
chaos.
Multicarte, c'est ce que vous voulez dire finalement.
Je trouve que finalement la France a des méthodes souvent inattendues, mais qui donnent parfois de bons résultats.
Dominique Seux.
C'est ça qui est assez incroyable en fait, c'est que à 39 ans, Emmanuel Macron a peut-être des expériences plus variées, je ne dis pas plus longues, plus variées que beaucoup d'hommes politiques en place depuis 30 ou 40 ans, puisqu'il connaît l'économie, il connaît la mondialisation, il est un de ceux qui parle quand même le mieux anglais, c'est un peu idiot, mais c'est vrai, aujourd'hui c'est utile, et donc il a déjà un parcours relativement riche. Alors, moi ce qui me frappe le plus, vous savez, depuis hier soir, on dit beaucoup, c'est frappant dans les rues de Paris, soyons très concrets, il n'y a pas de klaxon. Il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas eu beaucoup de monde sur les Champs-Élysées pour le 8 mai ce matin.
Emmanuel Macron a capitalisé 90% des voix.
Alors voilà, exactement, mais on ne sent pas un enthousiasme. Je crois que le pays arrive assez épuisé au bout d'un an. La campagne électorale a démarré il y a exactement un an, disons au printemps 2016 avec les primaires de la droite. Bon, on n'en peut plus. C'est-à-dire, et au moment où le travail va vraiment commencer, les Français disent « Bon, d'accord, on a déjà entendu tellement de choses qu'on voudrait que ça passe à l'action. » Et le sujet majeur maintenant, c'est avoir des résultats. Et c'est un peu trivial, c'est un peu basique, c'est un peu bas du plafond, mais est-ce que le futur président, quelle que soit sa majorité, aura des résultats? C'est le défi qui lui est lancé.
Moi, et pour vous, Aïssé Gülsert?
Moi, je suis plutôt optimiste. Après, je viens vraiment d'un pays où c'est assez noir. Mais parce que On me pose souvent la question où va la Turquie. Et là, depuis un moment, depuis un an à peu près, quand je regarde l'élection, en tout cas la campagne, je me disais où va la France ? Parce qu'on n'arrivait pas vraiment, il y avait une indécision. Et pour moi, ce qui a tout changé, c'était vraiment le débat de mercredi soir, par exemple. Et c'est là aussi où on voit que la France, et ça, j'ai presque que des choses positives à dire aujourd'hui sur la France, parce que c'est là où on voit que l'exercice démocratique en France sert vraiment à grand chose comparé à d'autres pays. Bon. Pour Macron, je suis d'accord, il est intelligent. Il est jeune et il a du dynamisme, il a l'envie. Et je pense qu'une France qui, généralement, dans le cliché, en tout cas dans d'autres pays, on le définit de un pays qui n'aime pas beaucoup le changement, là vous êtes tout plein là-dedans.
Le paradoxe incroyable, c'est que finalement c'est un président optimiste qui a été élu par la somme des pessimismes qui s'exprimait contre une autre candidate.
Dans un des pays les plus pessimistes au
dans
monde.
Dans un des pays les plus pessimistes
mais,
au monde.
Oui, mais aussi je trouve que cette campagne, les Français au fond ont posé une vraie question dans cette campagne. On a dit elle était mauvaise, elle était sale, etc. Moi je l'ai trouvée très intéressante parce que c'était la question de la représentation nationale. Qu'est-ce que c'est qu'un homme politique ? Quel est le rapport de l'homme politique au peuple ? Et au fond, les affaires de Fillon ont été un des moyens de poser cette question. Et puis la succession des affaires, est-ce que les primaires peuvent vraiment dégager des candidats intéressants ? Est-ce que les partis ont ce rôle ? Est-ce que, et on vient de parler de la nouveauté en politique de Macron, est-ce que le gros problème de la France n'est pas l'ancienneté, le métier de politicien ? Alors, je trouve que c'est très intéressant comme campagne.
Parlons des réalités des Français aujourd'hui, puisqu'on va parler de la division de la société française. Madame Le Pen a renvoyé hier soir dos à dos la France des patriotes contre celle des mondialistes. Ça veut dire quoi pour le démographe que vous êtes, Hervé Lebras ? Ça correspond à quelle réalité, ça ?
Ça ne correspond à aucune... C'est des mots, si vous voulez. Là, vraiment, c'est... dans la stratégie du Front National de toujours utiliser le mot patrie, le mot patriote, mais concrètement sur le terrain, ça ne veut strictement rien dire.
Mais alors sur le terrain, quelles sont ces Frances qui s'affrontent et qui sont divisées aujourd'hui et combien y en a-t-il ? Et sur quoi ?
D'une certaine manière, je dirais qu'il y a... alors on a dit deux Frances, mais il y a deux fois deux Frances. Il y a deux Frances au sens régional du terme. Quand on regarde... la carte du vote au niveau, par exemple, en prenant les départements, on s'aperçoit qu'il y a toute une bande de départements qui est au nord d'une ligne, au fond, Le Havre-Belfort. Vous voyez, toute cette France du Nord-Est qui a voté assez peu pour Macron. Certains départements sont tout juste à 50%, la Haute-Marne, le Pas-de-Calais. Puis vous avez même chose sur tous les départements méditerranéens, et puis deux départements de la vallée de la Garonne. Et puis à côté de ça, vous avez une France qui a voté jusqu'à plus de 75%, comme le Finistère à 77%, ou la Loire-Atlantique, qui a voté pour Macron. Donc il y a une très grosse différence, je pourrais dire, c'est une différence qui est très loin dans l'histoire.
Qu'est-ce qui différencie ces Français, se demandent nos auditeurs, alors, loin à l'étranger.
Vous allez être étonnés, mais si je remonte très loin, parce que cette coupure-là, elle n'apparaît pas dimanche dernier, hier, elle apparaît dès 1984. Et c'est une coupure qui est très ancienne, en France. Et ça correspond au titre de votre émission. Vous allez être étonnés, mais c'est une France où les deux France, c'est deux rapports de voisinage extraordinairement différents, et depuis une très longue histoire, depuis plusieurs siècles, et Marc Bloch disait depuis plus de 1000 ans.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la France qui vote pour le Front National, c'est une France qui depuis toujours, enfin depuis au moins 1000 ans, vit groupée en ville ou en petit village. Et la France qui vote pour Macron, ou qui vote très peu pour Le Pen, c'est une France qui historiquement est une France du bocage. Pour vous donner un chiffre, au recensement de 1872, vous avez 95% des habitants de la Marne qui vivent groupés dans des villages ou dans des villes. Et vous avez seulement 25% des habitants de l'Ille-et-Vilaine, c'est deux départements assez comparables, qui vivent groupés. Le reste vit dispersé dans le bocage. Et Marc Bloch dit que ça a conduit à deux formes de sociabilité extrêmement différentes, deux formes de rapport entre les voisins tout à fait différentes. Dans la France le péniste, si vous voulez. Les voisins, on les a tout le temps. On collabore beaucoup avec eux dans la France agricole où les travaux étaient faits en commun, où les droits étaient faits. Dans l'autre France, vous êtes isolés. Dans une des Frances, il faut éviter d'être trop les uns sur les autres. Dans l'autre France, il faut rechercher la compagnie des autres quand vous êtes dans...
Mais en même temps, je comprends pas bien, parce qu'on a beaucoup dit la France de Marine Le Pen, c'est la France qui vit loin des grands centres urbains, qui vit loin des gares, qui vit loin des marchés d'emploi très dynamiques, et la France des autres, puisque on peut pas dire que ce soit la France d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a eu un report de voix, mais enfin, la France qui ne vote pas Front National, qui n'a pas envie de voter Front National, c'est au contraire une France ouverte sur l'extérieur, une France très urbanisée.
Alors, j'ai parlé de la première coupure, qui est une coupure régionale, mais j'ai dit il y a deux coupures, parce que à l'intérieur de chacune de ces parties de France, de cette partie des voisins et des non-voisins, vous avez une très grande différence qui augmente, qui n'existait pas avant 2007 et qui maintenant augmente de plus en plus entre ceux qui sont loin des grandes agglomérations et ceux qui sont au centre des grandes agglomérations. J'ai pris les chiffres là du second tour en les classant par dimension des communes. Dans les communes de moins de 1000 habitants, Macron atteint seulement 55% des voix. Dans les communes de plus de 100 000 habitants, il atteint 81% des voix. Donc vous avez là-dedans une très large différence qui s'est creusée. Cette différence n'existait pas avant 2007, et je pense, quand vous parlez patriote et mondialiste, c'est à cela qu'on fait allusion, parce que mondialiste, c'est au fond les personnes qui sont dans les grandes villes, non, et qui sont effectivement en contact avec le marché mondial. Et alors, du coup, le Front National appelle patriotes ceux qui sont loin des grandes villes. Mais ils ne sont pas plus patriotes que les autres. Ils sont simplement loin des grandes villes.
Mais moi, j'ai observé aussi, en tant vraiment qu'observatrice, qu'il y a des coupures. Vous parlez d'une coupure ancienne, mais il y a aussi des coupures nouvelles. Surtout aussi, même au sein des familles, dans le sens où j'ai passé là à peu près 10 jours dans des familles qui sont de milieux d'éducation, etc., qui sont différentes, qui généralement au sein de la famille votent plus ou moins pour la même personne, pour le même candidat.
Et on a eu beaucoup de familles, il y avait des votes différents au premier tour, une famille donc homogène socialement.
Tout à fait, mais où on voit aussi, où il y a eu des discussions entre des sœurs qui disent que si toi tu votes Le Pen, ou bien j'entends que tu ne votes pas, je ne te parlerai pas.
C'était vendredi dernier, il y a eu beaucoup de ruptures sur WhatsApp, de ruptures amicales, de brouilles, vendredi dernier dans la tension. Beaucoup de gens se sont brouillés avec des amis.
Les tensions commençaient à monter. Moi j'ai l'impression qu'il y a deux choses. La première, alors je n'ai pas les connaissances d'Hervé Le Bras. Moi, ce qui me semble, c'est que il y a les gens qui se sentent en France représentés et ceux qui ne se sentent pas représentés. Alors évidemment, c'est très schématique, etc. Mais
vous iriez jusqu'à dire des gens qui se sentent même rejetés.
Je ne sais pas, rejetés, mais qui ne sont pas. Est-ce qu'il y a un ministre aujourd'hui, est-ce qu'il y a un ministre dans le gouvernement français qui représente les territoires ruraux? La réponse est non. Il n'y a un ministre de l'agriculture, c'est une activité, mais une activité économique, mais les 4/5 du territoire
géographique ne sont pas... On a tellement dit que la France rurale n'existait plus, on l'a tellement dit.
Mais il y a quand même des millions et des millions de gens qui ne se sentent pas représentés. Alors après, il y a la seconde question qui est-ce que la distinction entre la mondialisation et les patriotes, rentrer là-dedans, c'est vraiment obéir au discours de Marine Le Pen. Ouais. Et c'est assez, allez, je vais dire le mot, assez farfelu. En réalité, ça voudrait dire que toute usine qui ferme, tout commerce qui ferme est lié à la mondialisation. Ça n'est évidemment pas le cas. Les usines peuvent fermer pour d'autres raisons, progrès technologique, réorganisation. Les commerces dans les villes, dans les petites villes, ferment pour d'autres raisons.
On nous dit quand même souvent dans les médias que les usines ferment parce qu'il y a des délocalisations tout de même.
En partie, mais pas seulement. Et donc, rentrer dans le schéma de pensée binaire du Front National, et comme vous le disiez tout à fait, il y a bien d'autres explications. Dans les familles, à droite, certains ont voté ou ont hésité pour des raisons morales, d'éthique, pour d'autres choses. Et donc, attention aux lectures purement binaires.
Juste, vous vous souvenez de l'écrivain Michel Houellebecq qui a déclaré, c'était il y a 3 jours à la télévision, « Je crois à un vote de classe. Moi, je suis trop riche pour voter Le Pen ou Mélenchon. Je ne vote pas Fillon car je ne suis pas un héritier. Donc, je vote Macron. Et je suis déconnecté d'une partie de la France. Pour un écrivain, c'est une faute professionnelle. » Est-ce que vous pensez, Hervé Le Bras, qu'aujourd'hui, en France, on vote en fonction de qui on est et pas de ses convictions, notamment par rapport au reste de l'histoire, où beaucoup de gens dans le passé ont voté socialiste en fonction de leurs convictions, puisqu'il y avait une très large représentation sociale au Parti Socialiste notamment.
Moi, je pense que le vote, enfin, ce que pensent aussi les politologues, le vote est de moins en moins un vote de classe. C'est un vote qui a obéi, je dirais presque le contraire, et j'irais dans le sens de Houellebecq. On est de plus en plus dans un vote de conviction, dans la mesure où les classes sociales sont devenues très difficiles à délimiter, si vous voulez. Il n'y a plus de... par exemple, la classe ouvrière. Bon, quand vous regardez, j'ai fait un travail où j'ai regardé à qui étaient mariés, avec qui étaient mariés les ouvriers. Alors déjà, les ouvriers, il faut dire que 75% des ouvriers en France sont des hommes, et puis un quart seulement des femmes. Du coup, alors les employés, c'est l'inverse. Du coup, 50% des ouvriers sont mariés à une employée, et seulement un peu moins de 20% à une ouvrière. Donc il n'y a pas de classe ouvrière. Ce que vous disiez de la différence des opinions, c'est aussi dans la différence des classes. Je voudrais ajouter une chose à propos des fermetures d'usines, parce que ça illustrera peut-être ce qu'on disait il y a un instant. Si une fermeture des Deux-France, mais des Deux-France au sens régional, si une usine ferme à Cholet, je reviens de Cholet, il y en a une autre qui ouvre. Cholet a des taux de chômage les plus faibles de France. Ils étaient dans le mouchoir, puis maintenant ils ont changé. Tout ça a fait faillite. Ils sont dans la pâtisserie internationale, dans la robotique, et ainsi de suite. Si une usine ferme à côté d'Amiens, comme au fond les exemples de Whirlpool, il n'y a pas de remplacement. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a au fond des mentalités très différentes dans ces deux types de territoires. Alors l'économiste Daniel Cohen est en train de travailler des notions sur, vous le savez, optimisme, pessimisme.
Alors justement, parlons de ce moral des Français, parce que dans les témoignages de citoyens qu'on voyait à la télévision hier, qui fêtaient la victoire d'Emmanuel Macron, beaucoup disaient en substance qu'ils avaient voté pour une France des solutions contre une France des lamentations, si on peut dire. Il y a même certains qui ont parlé de thérapie collective. Qu'est-ce que ça vous inspire, et chez Gulcert?
Mais pour moi, c'est vrai. En tout cas, je reviens à la façon dont les élections étaient faites. Ça inspire à beaucoup d'autres pays, parmi la Turquie aussi, où là, on a eu un référendum il y a un mois où l'opposition n'a presque pas pu s'exprimer. Ou de voir des humoristes, des éditorialistes, des débats, ça donne vraiment de l'espoir. Qu'il y ait un jeune dans un pays qui refuse un petit peu le changement, à nouveau, qui va gouverner pendant 5 ans, c'est génial. Mais j'aimerais revenir à tout ce qu'on parlait à propos des endroits ruraux. J'ai entendu Marine Le Pen, le jour où moi je suis arrivée là, parler de la France oubliée. Et je sais que la Turquie et la France sont absolument deux pays différents, mais en même temps, ça a vachement fait écho, dans le sens où le parti politique de Erdogan, c'est exactement dans la Turquie oubliée qu'il a récupéré les votes et le soutien qu'il avait besoin. Mmh. Et j'ai vu, plus ou moins, quand on regarde au premier tour et au deuxième tour, là où Madame Le Pen a eu ses votes, c'était exactement le même scénario. Parce que finalement, les hommes politiques et les femmes politiques... L'ambition, c'est plus ou moins pareil, c'est le pouvoir. Ce que le peuple, nous, on demande de base, c'est la sécurité sociale, la sécurité financière, c'est le bien-être. Donc il y a aussi quand même, c'est ça que la France oubliée n'est pas la France seule. Mmh. Ça, c'est exactement le même, le même scénario aux États-Unis avec Trump, par exemple.
Ouais. Est-ce que la France oubliée se recoupe bien avec ce pessimisme des Français? Il nous reste une minute avant le flash, mais bien sûr, on va en reparler juste après. Après, Dominique Seux, peut-être quelques éléments de réponse sur ce pessimisme des Français et cette perception qui n'est pas toujours en relation avec ce qu'est la réalité pour les Français.
Il y a une formule qui résume souvent ça, c'est « bonheur privé, malheur public ». Les Français, quand on les interroge sur leur niveau d'optimisme individuel, leur vie privée, ils sont plutôt optimistes. Mais si on les interroge sur l'ensemble du pays, ils sont très pessimistes. Il y a beaucoup d'explications, et donc en 40 secondes, on va aller très très vite. Le rapport à l'économie, le rapport à l'argent, le rapport à la politique. Ce seront les trois éléments qui expliquent le malheur public. La question est de savoir si un nouveau président, comme vous le dites, qui arrive avec une nouvelle envie de renouvellement, etc., peut changer ça. Il arrive lui-même avec l'optimisme et il arrive en disant tout n'est pas foutu.
Alors, on va en parler de ce déclinisme valeur en hausse ou optimisme une valeur souvent jugée suspecte. Vous restez avec nous, Hervé Lebras et Dominique Seux. On se retrouve juste après le flash. Aïssé Goulcert également avec nous. Peut-on réconcilier les Français et réduire ces divisions? Rendez-vous dans...
Bonjour. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI au lendemain de l'élection du nouveau président Emmanuel Macron, après une campagne inédite et dont le premier tour a fait nettement apparaître des divisions profondes de la société française. Nous nous interrogeons avec nos invités, peut-on réconcilier les Français ou du moins réduire les clivages avec une politique centriste d'inspiration libérale sur le plan économique, avec un fort volet de protection sociale, assurance chômage, éducation, formation, sachant qu'Emmanuel Macron est perçu comme trop à gauche par la droite et trop à droite par la gauche. Alors la société française est-elle en attente réellement d'une vision modérée? Nous en discutons avec un journaliste éditorialiste économique qui aime se présenter comme un journaliste modéré sur l'économie, Dominique Seux.
Et vous couvre la tête de cendre, voilà. C'est épouvantablement porté
en France. Vous racontez
avec
beaucoup d'humour dans votre livre « La France va s'en sortir », donc un livre résolument optimiste, comment vous êtes sans cesse invectivé sur France Inter, une chaîne de gauche présentée comme la caution libérale.
Ah non, je ne dirais pas une chaîne de gauche, non, pas spécialement, c'est une chaîne de service public qui a des auditeurs très variés. Voilà,
plus à gauche que certaines radios. Et vous racontez avec beaucoup d'humour comme un technicien d'Orange a un jour refusé de vous installer une ligne numéris dans votre appartement.
En découvrant que j'étais l'éditorialiste effectivement plutôt libéral, et ça j'assume, de France Inter.
Aïssé Goulcert, vous êtes une journaliste américano-turque de culture également française et donc issue de la mondialisation heureuse. Et Hervé Lebras, vous êtes démographe. Alors peut-être Hervé Lebras, juste pour résumer vraiment très très rapidement quelques phrases sur ces divisions dont on a parlé, et vous avez fait apparaître des divisions très fine dans cette France profonde, la France rurale, la France des villes. Peut-être pour résumer quand même ce qui divise ces deux France aujourd'hui.
Comme je vous l'ai dit, c'est deux fois deux France, donc on tourne en rond. Mais disons que la division régionale, donc grosso modo le nord-est contre le sud-ouest, très grosso modo, correspond à une division aussi du point de vue de l'économie et du point de vue du social, qui est très importante. Quand j'ai publié, par exemple, la carte du chômage, les zones de chômage le plus fort correspondent aux zones qui votent pour le Front National. La carte des jeunes qui sont sans diplôme, même chose. La carte des taux de pauvreté, même chose. La carte de la proportion de familles monoparentales, même chose. La carte des différences locales de revenus, ce qu'on appelle un peu pompeusement l'indice de Gini, c'est-à-dire est-ce que localement il y a des gros écarts de revenus ou peu, même chose. Donc il se trouve que la France qui vote le Front National a ses caractéristiques, mais ça serait se limiter à ça, c'est au niveau régional, c'est des régions où les choses vont moins bien. Le Monde avait titré la carte résumée de tout cela, la France de l'exclusion. Mais en même temps, quand vous prenez les villes par rapport aux campagnes, aux rurales dont on parlait tout à l'heure, ça ne joue pas. C'est-à-dire que, en fait, le taux de chômage est plus faible dans les campagnes les plus reculées que dans les grandes villes. La pauvreté est plus faible dans les campagnes les plus reculées, et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est une situation paradoxale, où il y a deux choses. Il y a une question économique.
Entre la perception et la réalité aussi.
Oui, exactement. Il y a une question économique d'un côté qui au fond pourrit la vie dans un grand nombre de régions en France. Et puis, il y a une question qui est alors cette fois-ci sociale, dont vous parlez aussi, qui est de sociabilité. On est éloigné. Le fait d'être éloigné, de se sentir abandonné, de sentir qu'on ne s'occupe pas de vous, que rien n'est fait pour vous, qui est tout à fait différent, qui n'est pas en relation.
Et que la politique ne s'intéresse pas
absolument,
à vous, c'est ça.
Absolument.
Dominique Seux.
Non, ce qui est très, très paradoxal, c'est quand on regarde quelques grands indicateurs, mais aussi qui sont de vie très concrète pour les Français. 85% des Français, des salariés, sont en CDI aujourd'hui, contrat à durée indéterminée. Quand on dit ça, les gens disent, mais c'est pas possible. On a l'impression que tout le monde est en intérim.
Toute la société est ubérisée.
Voilà, exactement. Non, 85%. L'espérance de vie continue d'augmenter, y compris l'espérance de vie en bonne santé. La santé, ah oui,
oui non, mais après,
je vous vois
oui,
faire une moue.
Non, avec des différences d'un milieu à un autre.
Globalement.
Oui, mais dans tous les milieux. Dans...
Globalement. Oui. La santé est quasiment gratuite en France. On peut, ouais, mais globalement, la retraite, la durée de retraite est la plus longue des pays occidentaux. Donc les indicateurs durent. Et 90% des Français ont un emploi, puisque le taux de chômage est 10%. La difficulté, c'est que ceux qui vont mal, et il y en a qui vont mal, ce sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que ce sont ceux qui sont peu qualifiés, ce sont les jeunes qui n'ont pas fait d'études, c'est les ouvriers qui n'ont pas été, pardon, qui ont été peu formés. Et ceux qui vont mal sont finalement assez peu aidés. Parce que nos filets sociaux, qui sont parmi les plus considérables des pays occidentaux, ces filets sociaux sont en fait dispatchés un petit peu, c'est de l'arrosage, un peu à tout le monde, et ne sont pas concentrés sur ceux qui en ont véritablement besoin. Et donc, nous avons, au fond, une population qui se dit « on aide les autres, on ne m'aide pas de moi, alors que moi, j'en ai vraiment besoin ». Et donc, vous avez à la fois de la jalousie, mais le terme n'est pas péjoratif, et vous avez donc de l'envie, de la jalousie et un mauvais ciblage de ce qu'on appelle les prestations sociales.
Je pense
sociales.
Que vous avez aussi de la peur.
Et de la peur.
Il y a de la peur et de la colère en France qui sort de tous les milieux aussi. On n'entend pas seulement dans des endroits ruraux où il y a du chômage et des jeunes qui votent Le Pen. Vous l'entendez aussi à Paris, vous l'entendez aussi dans des grandes villes.
Notamment dans des milieux catholiques, par
tout
exemple,
à fait.
De droite, qui ont l'impression que la société française se délite totalement.
Et donc, je pense que c'est une...
Il y a une inquiétude.
En un sens, c'est une des, entre guillemets, missions de M. Macron, d'essayer de toucher à cette peur et à cette colère et de créer une atmosphère où il y a plus de rassemblement, plus de communication, parce que sinon les fissures qu'on a, ce ne sont pas juste des fissures économiques ou moraux. Il y a vraiment une peur et une colère que moi j'ai jamais vue dans
l'histoire.
Mais
est-ce que la mondialisation crée les mêmes angoisses et les mêmes craintes en Turquie?
Oui, mais pas comme la France, parce que en Turquie, on est un peu plus...
La a profité à la Turquie sur le plan économique, oui. Tout de même.
Bien sûr, tout à fait.
Grand dynamisme économique
tout
en
à fait.
Turquie.
Mais
il y avait beaucoup
savez...
de gens qui se sont enrichis grâce à la mondialisation, des usines, de textiles,
notamment. Mais nous, notre ennemi est différent. Je pense que la France voit souvent la globalisation et le libéralisme peut-être comme un ennemi, ou comme... Et tandis que nous, on a toujours été proches de cette pensée américaine, capitaliste, et on l'a enviée, donc on l'a essayé de l'adapter.
Alors justement, parlons-en de cette méfiance. Est-ce qu'elle est historique? Est-ce qu'elle est intrinsèque à l'esprit français? Je n'en sais rien. Les Français se méfient de l'économie et de l'argent, dites-vous, Dominique Seux.
Oui, un sociologue, historien, Pascal Bruckner, dit « la haine de l'argent est la bande-son de la société française ». Alors, est-ce que c'est lié à une explication religieuse? Est-ce que c'est le rapport compliqué des catholiques avec l'argent, différent, je dis un peu des banalités, pardon, à Vélobras, hein, mais différent de celui des protestants? C'est possible. Mais c'est vrai que le jacobinisme, enfin, la centralisation, le rapport compliqué avec l'argent, fait que nous avons du mal avec l'économie depuis toujours, et une économie qui est sortie depuis une vingtaine d'années du contrôle politique, d'une certaine manière, fait davantage peur. La mondialisation nous fait davantage peur qu'à d'autres, parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi les Allemands, pourquoi les Suédois, pourquoi les Tchèques, pourquoi les Espagnols n'ont pas le même rapport à la mondialisation que nous?
Vous allez même plus loin, vous dites, Dominique Seux, dans votre livre, qu'il y a le mythe d'un trésor caché en France.
Alors voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que chaque Français pense que ça irait mieux si... Pour les uns, ce sont les pauvres, pour les autres, ce sont les riches, pour les autres, c'est la mondialisation, pour les autres, ce sont les voisins, pour les autres, c'est l'État, c'est la fraude. Chacun pense qu'il y a de l'argent caché sous le tapis par quelqu'un d'autre, et donc il n'y a aucun effort à faire, jamais, il n'y a pas besoin de réformes nécessaires, il suffit d'aller tirer l'argent qui est caché sous le tapis du voisin. Ça marche un petit peu, mais ça ne peut pas marcher à l'infini.
Hervé Lebras, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse?
Oui, vous savez, c'est compliqué parce que pour moi, l'analyse, je cherche toujours à la situer à l'intérieur de la France. Donc sur deux points, quand vous parlez de peur et de colère, on l'a beaucoup dit, mais pourquoi la colère est-elle si différente selon les endroits? C'est une de mes questions. D'autre part, depuis 1984, c'est ce même vote FN aux mêmes endroits. Donc j'ai du mal à penser que les gens soient en colère sans interruption depuis 1984. Sur le catholicisme, quand on regarde bien, il y a certains catholiques, notamment liés, assez proches de la droite extrême, pour ne pas dire plus, qui font beaucoup parler d'eux. Mais si vous regardez bien le résultat des élections, qu'est-ce qui est derrière le vote Macron, vous verrez qu'il suffit de superposer la carte du vote Bayrou, qui est la carte du catholicisme, c'est parce que le catholicisme est modéré en France dans son immense majorité. Dans puis l'Ouest. La moitié, tant partout en France, dans la moitié, dans le sud, en Aveyron, dans le Béarn, dans le Pays Basque, c'est la démocratie chrétienne. C'est l'action d'ailleurs des jeunesses agricoles et des jeunesses ouvrières chrétiennes. C'est un parti modéré. Et quand vous prenez cette carte du catholicisme, vous ajoutez la moitié des votes de Hollande, vous avez exactement à 2 ou 3% près, vous tombez exactement partout en France sur le vote pour Macron. Donc quelque part, les catholiques ont voté pour Macron. Je ne suis pas du tout un défenseur du catholicisme. J'attaque tout à fait dans un des livres que vous avez cité, la question des racines chrétiennes, qui me semble une très mauvaise façon de poser l'identité ou la soi-disant identité de la France. Mais il faut reconnaître que l'opinion catholique est quand même une opinion qui soutiendra mais Macron, même si les évêques ont été très 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 peu loquaces sur le vote qu'il fallait avoir.
Si on reprend ce sentiment de pessimiste, alors là pour le coup tout de même assez partagé dans la société française et pas seulement chez les électeurs de Marine Le Pen, si on reprend donc ce moral assez fatigué des Français, est-ce que la fiscalité française aurait pu créer des divisions dans cette société française, Dominique Seux ? Parce que vous dites que le système fiscal aujourd'hui crée ce sentiment connu de tous que tout le monde est perdant.
Oui, c'est-à-dire que la fiscalité, un peu comme la fiscalité américaine, en fait, la fiscalité française est particulièrement complexe, assez illisible, et donc chacun... les Français mettent la valeur de justice bien au-dessus de tous les autres, alors que les Américains mettent la valeur de liberté bien au-dessus de tous les autres. Égalité, justice sont supérieures à toute autre valeur. Et la fiscalité telle qu'elle fonctionne aujourd'hui donne l'impression que les choses ne sont pas claires. On n'y voit pas très clair au fond. Et on se doute bien que d'autres en tirent davantage parti que nous. Une des complexités, c'est que en fait, la fiscalité en France change sans cesse. Et je crois qu'une des idées intéressantes d'Emmanuel Macron, et on peut le critiquer sur des tas de sujets, on le fera si vous voulez, mais une des idées intéressantes, c'est de dire... Quand je change un impôt, je ne le changerai qu'une seule fois au cours des 5 ans qui viennent. Je ne commencerai pas en 2017 quelque chose que je déferai en 2018 pour le refaire en 2020. Et donc ça, la stabilité, la sécurité me semble, sur le plan de la fiscalité, mais on pourrait dire la même chose des règles sociales, plutôt une idée intéressante. Voilà.
Vous restez bien sûr avec nous. Alors comment réconcilier ces Français? Comment réduire ces fractures? Diminuer la défiance aussi pour les compatriotes vis-à-vis les uns des autres? Nous en discutons avec vous, Hervé Lebras, Dominique Seux et Ségul Sert. Nous y revenons tout de suite, dans quelques instants.
I don't wanna live without your love. to change it. I can look the other way. I seem to remember how it felt to be crushed by something. Walk until you see the water, just in case it disappears. Take advantage of the sun.
C'est James Vincent McMorrow chez 7 milliards de voisins. Alors comment réconcilier ces Français au lendemain de l'élection présidentielle qui bien sûr a donné une large victoire pour Emmanuel Macron, mais personne n'est dupe, hein. Il est à la fois bien élu, large victoire et une très fragile victoire avec 66% des voix et puis bien sûr avec un vote pour le Front National à 11 millions, sans parler de ce troisième parti qui s'appelle l'abstention plus le vote blanc et le vote nul. Ça fait au total, si on additionne 12 plus 4 millions, et ben ça fait 16 millions hein, quand même. Mmh. Alors comment réconcilier ces différentes Frances selon vous, peut-être Hervé Lebras?
Moi je crois que ce qui est intéressant dans le programme de Macron touche aux questions d'éducation, mais aux questions d'éducation au début, si on peut dire, à la fin. C'est-à-dire, au début, c'est toutes les mesures pour les maternelles et pour le primaire. Et je crois que Macron, comme vous le savez, a été rapporteur général de la commission Attali. Et dans cette commission Attali, nous avions Boris Cyrulnik. Et Boris Cyrulnik a fait un plaidoyer très éloquent qui a beaucoup impressionné Macron. Et donc, il la met en application dans son programme. Et la question d'arriver
notamment
avec les compétences
avec
minimales.
Une mesure qui serait applicable dès la rentrée de septembre, voilà. Diviser les classes de CP, CE1.
Dans les zones urbaines sensibles,
voilà,
oui, absolument.
À 12 élèves.
Et donc ça, c'est le point au départ. Il faut que, arriver à la classe, au fond, arriver au collège, les savoirs fondamentaux soient acquis, ce qui n'est pas le cas actuellement, comme on le voit dans les tests PISA. Et puis, après, on en parle moins, mais il veut une profonde réforme de la formation professionnelle. Il faut savoir que 32 milliards chaque année partent en France dans la formation professionnelle. Ça part dans la plupart du temps des drôles de choses.
Nicolas Sarkozy avait tenté de réformer la formation professionnelle.
C'est très dur, parce qu'il y a une gestion paritaire. Et donc, dans la gestion paritaire, les syndicats patronaux, ou le MEDEF, les syndicats ouvriers, et l'administration, c'est ça le paritarisme, chacun en tire profit. Donc, ils ne veulent pas y toucher. Or, ces 32 milliards ont un rôle essentiel, c'est eux qui permettent la reconversion. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, en fait, ce dont manque la France, qui est un point très important et qui explique une partie du chômage, c'est les personnes ne sont pas reformées au cours de leur vie. Il n'y a pas de seconde carrière possible.
Et ça sera de plus en plus urgent avec l'économie digitale, bien
Absolument.
Évidemment. Il faudra se former tout au long
de la vie. On vit de plus en plus longtemps, on aura une vie au travail de plus en plus longue, mais la durée de vie de votre formation est de plus en plus courte. Donc, il faudra avoir au cours de sa vie plusieurs formations. Et ça, c'est un point essentiel du programme de Macron, qui sera aussi facilité par la réforme qu'il propose de l'obtention des indemnités de chômage, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des indemnités de chômage, non pas si on est simplement licencié, mais si on quitte de son propre chef son travail. Et si on le quitte, c'est très souvent pour pouvoir se reformer. Donc là-dedans, il y a toute une réarticulation de la formation qui est très intéressante.
Toute une relation aussi au travail qui va peut-être devoir être redéfinie, mais c'est très compliqué dans un pays comme la France, et chez Gulcert.
Tout à fait, mais je pense aussi qu'il est important pour M. Macron de se rappeler pendant les 5 ans à venir, presque tous les jours, du mot humilité, de savoir que les 66% de vote qu'il a eu n'est pas forcément le soutien de son programme. Et qu'il doit faire l'erreur
Il doit retenir le pourcentage du premier tour, finalement. C'est ce que vous voulez dire.
Non, c'est pas ça que je dis.
Il doit retenir le second tour.
Il doit vraiment, ce qu'il a dit hier au Louvre, quand il parlait de l'humilité, il devrait le faire. Parce que être le président de 66% des Français n'est pas assez. Pour atteindre la réussite qu'il veut, et il y en a beaucoup qui ont la foi qu'il va l'avoir, il va devoir parler et écouter, être à l'écoute de cette France, entre guillemets, oubliée.
Vous semblez dire que l'optimisme peut conduire à l'arrogance ?
Souvent en France.
C'est dit avec une toute petite voix, mais on sent que c'est pensé très fort. Écoutez, moi ce qui me semble... La première question, c'est de savoir, est-ce qu'il va avoir... On sait qu'il n'aura pas d'état de grâce. Est-ce qu'il aura un délai de grâce ? Est-ce qu'on va lui laisser quand même 3, 4, 6 mois pour au moins lui donner une chance. Alors on verra la majorité qui sortira des urnes, elle sera peut-être une majorité de droite, on ne sait pas. Mais est-ce qu'il aura une chance? On a vu lors des deux quinquennats précédents que Nicolas Sarkozy a fait un certain nombre de bêtises au début de ce quinquennat, qu'il a traîné pendant tout le quinquennat. Mais il a été bien chargé là-dessus, et François Hollande identiquement. Est-ce que, parce qu'il faut être conscient quand même que s'il ne réussit pas là, quelle que soit la majorité derrière, en fait, le prochain tour, c'est quand même le Front National qui gagnera probablement.
Il y a Vous êtes en train de nous dire que c'est la dernière chance là, pour la France,
peu,
c'est ça?
Je le crains, ah, je oui. le crains un peu. Ouais. Alors, quels sont les enjeux?
Hervé Lebras, ça a l'air moins...
Oh, j'entends dire ça depuis très longtemps, et à chaque fois, c'est reporté heureusement d'une...
C'est les scores du Front National de François
Hollande. Oui, mais il y a quand même une sorte de constante, dans, même dans les enquêtes d'opinion, qui montre que à peu près deux tiers des Français ne veulent pas voir.
Oui, mais il y a une réalité aussi qu'en 2002, il y a eu 5,5 millions de votes qui étaient pour le Front National, et en 2017, c'est le double. Ça, on ne peut pas juste dire que c'est.
Non, parce qu'en 2002, vous avez eu le vote du Front National au premier tour de 2002, c'est Le Pen plus Maigret, c'est 19%. En 2017, le vote du Front National au premier tour, Marine Le Pen, c'est 21,3%. Le gain, c'est 2,3% en 15 ans. Je crois qu'il n'y a pas là de... Il faut, bien sûr, c'est préoccupant, mais de là à prédire la catastrophe, si on rajoute encore 2,3% arrivé dans 15 ans,
je
ça sera en 2032. En 2032,
ouais.
Elle sera à 24,6. Voilà.
Nicolas Dupont-Aignan l'a rejoint en second tour. Donc on peut mettre ses voix d'une certaine partie du premier tour dans cette, disons, dans ce paquet-là en partie. Imaginons un instant que le Front National n'ait pas fait l'erreur incroyable de s'arc-bouter sur la sortie de l'euro. Je pense que leur score aurait été nettement plus élevé. Parce que ça a servi de repoussoir, d'une certaine manière. Alors si on reprend les points essentiels, je pense que... on a besoin de montrer aux Français qu'il n'y a pas l'impuissance du pouvoir politique. Et l'accélération de l'action politique me semble une clé absolue, quels que soient les responsables politiques. Quand on pense que les lois El Khomri sur le travail, la loi Macron, c'est entre 4 ans pour l'une et 600 jours pour l'autre. Et c'est un peu toujours comme ça. Ça, c'est quand même le premier point. Le point intéressant dans ce qu'il propose, c'est qu'il a, sur le plan économique, qui est davantage le mien, c'est qu'on passe de l'économie hydraulique à l'économie d'acupuncture. C'est-à-dire que l'économie hydraulique, depuis toujours, c'est on ouvre un robinet de dépenses publiques ou de baisse d'impôts, il en sort à la fin de l'emploi. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout le monde en a conscience maintenant.
Mais alors vous dites
Macron a l'idée de dire, on fait un peu de chirurgie, non pas esthétique, on espère, mais un peu de chirurgie, non pas lourde comme le voulait François Fillon, mais un peu de chirurgie, on garde les points qui vont mal et on essaye de les traiter.
Ouais. Mais vous dites qu'il faut réécrire un roman national de l'économie française, au-delà des divisions,
alors
montrer
ça,
les savoir-faire, l'excellence française, et tout en nous expliquant que les Français ne travaillent pas assez d'ailleurs. Ça, c'est votre côté libéral.
Ouais. Je pense que nous ne savons pas ce que nous vendons nous n'avons pas de rêve économique. Alors, je ne sais pas si on peut avoir un rêve en économie, mais enfin bon. Les Allemands, c'est l'exportation. Les Américains, c'est la technologie. Les Suédois, c'est quelques champions incroyables. Bon, c'est quoi notre roman économique? Alors ça, ce sont des points d'excellence. Ce sont des points d'excellence. Mais au fond, est-ce que c'est le savoir-faire, en français dans le texte, comme on le dit dans le monde entier, en français, le savoir-faire, bon, c'est une chose. Moi, je crois que nous avons notre relation à l'économie, qui est très spécifique, notre parfois détestation de l'économie, fait que nous avons un créneau qui est celui de l'économie non marchande, aussi de la frugalité, de savoir vendre l'économie. Si nous avons inventé Blablacar en France, ça n'est pas par hasard, voilà. Nous savons inventer. Le Bon Coin, c'est la même chose. Nous avons une niche de ce point de vue-là. Je reconnais que c'est une petite niche.
Une économie du voisinage, finalement.
Voilà, l'économie du voisinage, et comme ça, je crois qu'on rebondit complètement avec le titre de votre émission.
Et surtout avec les théories d'Hervé Lebras,
voilà,
finalement.
Absolument, on va s'associer là, tout à fait.
Hervé Lebras, là, sur cette économie de la frugalité, elle pourrait ressouder les Français, par exemple?
Je pense que cette idée, au fond, c'est une idée
qu'on
poursuit depuis quelque temps. Vous avez tout à fait raison de dire, autant je suis contre l'idée d'un roman national qui ne peut être que faux ou simplifié, autant l'idée d'un roman économique est une très bonne idée, d'avoir une ligne directrice. Et c'est peut-être mieux dit que, au fond, ces appels à réindustrialiser qu'on a eu, qui sont effectivement trop massifs et qui nous font penser à reprendre des entreprises style début du 20e ou 30e. glorieuse. Donc je crois que c'est une idée tout à fait intéressante et qui devrait redonner une partie du moral aux Français. Ceci dit, un des problèmes, je pense, compliqués de la France, c'est que quand une mesure est décidée en France, il y a un petit groupe d'opposants, il y a une minorité d'opposants. Mais cette minorité est beaucoup plus active que la majorité qui est favorable, parce que la majorité est mal organisée. Ce que j'attends de Macron, de ses 66%, c'est justement qu'il sache organiser la majorité pour résister aux minorités actives qui, à chaque fois, en petit nombre souvent, descendent dans la rue et empêchent qu'une réforme soit adoptée en France.
Je crois que le centre ou les modérés d'une manière générale doivent parler beaucoup plus cru et dru que les extrémistes qu'on entend matin, midi et soir. Oui.
Mais je pense aussi que le fait que M. Macron devienne président de la France est aussi un boost et une inspiration pour le reste de l'Europe qui, en ce moment, est en vue de la Turquie en petits morceaux. Donc ça va ressouder, je pense, l'Europe.
Merci beaucoup à tous les trois. Tiens, pour conclure, je vous livrerai le message de Gildas qui habite à Bouaké dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui nous a posté ce message. Félicitations Emmanuel Macron. Sa présence à l'Élysée favorise la réconciliation. Il a tout pour être un bon président, jeune, sage, prêt à écouter, pédagogue et très beau. Nous lui souhaitons bonne chance. Voilà, c'était le point de vue de Gildas qui n'appartient bien sûr qu'à lui. Merci à tous les trois, Hervé Lebras, Dominique Seux et Aïcha Gulser, d'avoir été avec nous chez cette milliards de voisins. Merci à toute l'équipe aussi, Cécile Lavolo, Camille Néran, Hugo Violas. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera de l'enfance maltraitée. Comment mieux signaler et protéger les enfants de la violence des adultes? Après un plan annoncé en toute fin de mandature, Hollande, on peut se demander pourquoi les chiffres effarants d'enfants qui meurent chaque semaine sous les coups de leurs parents n'ont d'ailleurs jamais suscité de grand émoi, à la différence de débats interminables sur la filiation et la famille. Voilà. Merci encore de votre fidélité du lundi au vendredi, les voisins et les voisines. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit, dans quelques secondes. Ce sera le journal sur RFI.